Que le nom du Seigneur soit béni pour ces paroles que nous venons de chanter. Si ce que nous avons chanté est vrai, nous voulons vraiment le connaître davantage. Nous voulons comprendre davantage. Il y a un verset qui est là sur mon cœur depuis ce matin, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 3. Après toute une série d'exhortations, voilà ce que le Seigneur dit à son Église. Nous croyons que Dieu veut nous bénir. Est-ce que vous le croyez que Dieu veut bénir l'Église? Oui, Dieu veut bénir l'Église. Dieu veut bénir l'Assemblée, les Assemblées. Et pourtant, dans ce texte, après toute une série d'exhortations, c'est au verset 7, à la fin du verset 7, là, l'exhortation se termine avec le comportement des maris. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous allons lire jusqu'au verset 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur et contre ceux qui font le mal. Amen. Ce que nous venons de lire nous encourage à avoir une vie de prière où nous avons de l'assurance et la certitude que nous sommes exaucés. Les yeux du Seigneur, verset 12, sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Vous priez? Vous aimez prier? Est-ce que c'est toujours facile de prier? Est-ce que c'est toujours facile de prier? Non. Des fois, c'est un plaisir. Des fois, c'est un rafraîchissement. Des fois, c'est un combat. On pourrait le résumer en deux mots. Des fois, c'est un rafraîchissement. Des fois, c'est un combat. La prière, ce n'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour que nous nous approchions de lui, pour que nous soyons protégés par lui, et également pour faire de nouvelles expériences qui correspondent à sa volonté. Car je crois qu'il y a des expériences qui ne veulent rien dire, mais il y a des expériences qui sont en lien étroit avec la volonté de Dieu. Et nous pouvons entrer dans des œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Est-ce que vous pensez que Dieu a des œuvres pour chacun? Oui, Dieu a préparé des œuvres. C'est écrit dans la parole que nous pouvons entrer dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Mais voilà, il y a cette parole, après toute une série d'exhortations, de partir du chapitre 1er, par rapport au comportement que les maris doivent avoir, que les épouses doivent avoir, que les serviteurs doivent avoir, comment devons-nous nous comporter avec dans telle ou telle situation. Il dit, mais voilà comment nous devons faire, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Car il n'y aurait rien de pire que Dieu un jour nous dise, voilà, ça fait 6 mois, ça fait 6 ans que tu pries pour rien. Est-ce que vous aimeriez un jour que Dieu ait à vous dire ça? Bien sûr que non, quoique ça serait bien qu'il nous le dise peut-être, dans le sens où nous pourrions peut-être nous corriger, dire, mais il faut que je change ma façon de me comporter. Est-ce que je vis vraiment ce que Dieu veut que je vive? Car il y a des prières qui sont exaucées, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Il y a des prières qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Donc ces prières-là, Dieu ne les exaucera pas. Il y a des prières que Dieu n'exaucera pas encore. Nous avons tous entendu des gens qui ont vu leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs amis, leurs voisins se convertir 10 ans, 15 ans après. On a des témoignages. Nous, on a témoigné un gars il y a une trentaine d'années. Il a commencé à écrire sur Facebook à ma femme pour dire voilà que ce qu'on lui avait dit il y a 30 ans, ça commençait à produire son fruit et qu'il avait besoin de Dieu, qu'il avait besoin de la paix de Dieu. 30 ans après, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce qui nous montre qu'il y a des semences qui ne lèvent pas de suite. Ça, c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse se dire. Mais il y a des fois où Dieu dit non. Il y a des fois où ce n'est pas encore le moment. Mais il y a des prières que Dieu veut exaucer. Et c'est là que nous devons nous poser la question ce soir, puisque Dieu nous a rassemblés sous son regard. Est-ce que il n'y aurait pas dans ma vie des obstacles à la prière? Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce qu'il peut arriver que dans un domaine ou dans un autre, Dieu ne puisse pas exaucer mes prières? Quand vous lisez avec moi, regardez dans Ésaïe au chapitre 1er, c'est une parole, moi, qui m'a beaucoup interpellé. Le Seigneur parle à son peuple, on voit que ça ne va pas, il y a des choses qui n'ont pas été, et Dieu dit ceci, Ésaïe chapitre 1er, verset 15, c'est un verset qui est terrible. Moi, je sais que je me suis souvent arrêté sur ce verset, parce que je sais que c'est une parole que Dieu pourrait nous adresser si nous ne nous appliquons pas. Ésaïe chapitre 1er, verset 15. « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, » qu'est-ce qu'il ajoute ?« Je n'écoute pas. » Comme quoi Dieu peut nous dire que nos prières peuvent ne pas être entendues, ça veut dire que je ne vous exauce pas, dit le Seigneur, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, c'était de l'idolâtrie, il y avait dans le cœur du peuple de la tiédeur, de la négligence, et Dieu dit, mais si vous multipliez les prières, et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. C'est pour ça que Dieu dira dans le livre des Chroniques, en ce qui concerne la guérison du pays, la guérison du corps de Christ, il dit, mais si mon peuple, si, parce qu'il y a toujours ce mot qui revient, il y a toujours une condition, même si tout est gratuit, il y a une condition, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, et prie, et cherche ma face, et se détourne des mauvaises voies, je guérirai son pays. Il y a toute cette progression qui doit être respectée. Et je crois que Dieu fait grâce aux humbles. Et cette humilité consiste à dire, mais Seigneur, montre-moi, ce soir montre-moi, peut-être que justement, tiens, on vient de lire dans l'épître de Pierre, tiens, les maris qui doivent avoir telle attitude, les épouses qui doivent avoir telle attitude, est-ce que ça peut arriver que dans une famille, on ait des comportements qui fassent obstacle à la prière? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, la rancune. Est-ce que ça peut arriver de la rancune avec des gens avec qui l'on vit? Est-ce que Jésus ne le dit pas dans le Notre Père? Il enseigne comment il faut prier, et puis il dit, mais si vous ne pardonnez pas vos offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et on peut calculer comme on le veut, cet ajout, c'est ce commentaire que Jésus fait à la prière, nous enseigne que nous devons vivre dans le pardon. Un chrétien, il vit dans le pardon et il vit dans l'humilité. Parce qu'on peut prier, on peut prier, on peut prier, mais s'il n'y a pas d'humilité, on peut prier pour rien. On peut prier, j'ai fait allusion la semaine dernière à cet homme dans le temple. Vous savez, c'est dans Luc 18. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il prie, et ça ne sert à rien. Bon, ça m'a toujours marqué cette histoire, Luc 18. Vous connaissez cette affaire? Ils disent cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous connaissez cette parabole? Deux hommes montèrent au temple. Pourquoi ils sont montés au temple? Pourquoi on vient dans la maison de Dieu? Ils sont montés au temple pour prier. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller à l'église pour prier? Ben oui, c'est une bonne idée, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, voilà, deux hommes montèrent au temple pour prier. Alors, il y avait un pharisien, un religieux, très très religieux, et un publicain. Le pharisien, debout, prier ainsi à lui-même. Ça se passait dans son cœur. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Oui, il n'osait même pas regarder à Dieu. Oui. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Regardez la conclusion. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre. Donc ça prouve qu'on peut aller à l'église et prier pour rien. Il y en a un qui disait, voilà, moi je fais ceci, moi je fais cela. Vous avez remarqué pourquoi Jésus donne la parabole au verset 9? En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Elles se persuadaient qu'elles étaient justes. Pourquoi? Parce que quand on va au temple pour prier, quand on prie, quand on donne sa dîme, quand on jeûne, on peut en arriver à croire qu'on pratique vraiment la justice. Mais ce n'est pas ça, pratiquer la justice. pratiquer la justice, c'est vraiment, vraiment, vraiment obéir à Dieu. C'est pas parce que je jeûne que j'obéis. C'est pas parce que je prie que j'obéis. C'est pas parce que je vais à l'église que j'obéis. C'est pas parce que je prie que j'obéis. Et la question que Dieu peut nous poser ce soir est celle-ci. Est-ce que je vis dans l'obéissance? Vous vous rappelez, ce matin, il y a un monsieur qui m'appelait, qui priait pour quelqu'un. Et cet homme a entendu la voix du Seigneur lui dire, ne prie plus pour lui, car je l'ai rejeté. Vous rappelez cette parole que Dieu a adressée à Samuel, lorsque Dieu a rejeté Saül. Et en plus, il téléphone à un frère, et ce frère avait reçu la même parole de Dieu par rapport à cette personne en question. Comme quoi, voyez, c'est terrible ça. Ne prie plus pour lui, car je l'ai rejeté. C'est terrible cette affaire. Ce qui prouve que cette personne, eh bien, devait vivre volontairement dans le péché, avait choisi volontairement de désobéir à Dieu malgré sa présence à l'église, car c'est quelqu'un qui est toujours à l'église. Mais voyez, ce texte, il est là. La justice, c'est pas je vais à l'église, je prie, je suis là, debout, et je jeûne, et je donne ma dîme. Ce sont des choses qu'il faut faire, aller à l'église, prier, donner sa dîme, jeûner. Ce sont des choses que Dieu aime, que Dieu a instituées. Mais il faut les faire dans un esprit d'obéissance. Et la question que je peux nous poser ce soir est celle-ci. Est-ce que je vais à l'église? Est-ce que je prie? Est-ce que je jeûne? Est-ce que je donne ma dîme? Ou est-ce que j'obéis tout en faisant ces choses? Parce qu'il y en a un qui va s'appliquer à tout faire pour que nos prières ne soient pas exaucées et pour nous décourager. Vous savez qu'il y en a un qui fait tout pour nous décourager? Est-ce que vous le savez? Je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer ça. Parce que vous l'avez tous expérimenté, que le diable fait tout pour nous décourager et pour nous empêcher de prier. Dieu veut que nous ayons une foi vivante. Il est impossible, on connaît ce verset, Jeanson nous le rappelait l'autre jour dans les chants ou dans la prédication, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Beaucoup de gens s'imaginent et confondent la foi avec la croyance. Et beaucoup de gens s'imaginent que parce qu'ils croient en Dieu, ils sont agréables à Dieu. Mais si vous regardez bien dans la parole de Dieu, la foi est toujours liée à l'obéissance de la foi. D'ailleurs, regardez avec moi, on va le lire quand même, parce que je crois que c'est utile. Regardez dans le livre des Actes, ces sacrificateurs qui avaient vociféré de tout leur cœur, crucifie-le, crucifie-le. Vous savez combien il y avait une foule de sacrificateurs qui s'étaient opposés à Jésus-Christ. Et regardez ces gens. Une fois que l'Esprit de Dieu s'est répandu, une fois que l'Église est remplie du Saint-Esprit, il se passe quelque chose. Regardez, Actes chapitre 6, verset 7. C'est écrit, et c'est important pour nous chrétiens, que nous réalisions que la foi, c'est une question d'obéissance. Regardez, Actes chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous avez une définition exacte de ce qu'est vraiment la foi. Ils obéissaient à la parole de Dieu. La foi, c'est la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Et il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont agréables à Dieu parce qu'ils croient en Dieu. Il est dit qu'il est sans la foi. La foi, c'est cette obéissance de cœur. Regardez un peu plus loin dans le livre des Romains. Dans le livre des Romains, au chapitre 16. C'est important parce que vous savez, je l'ai dit l'autre jour, le diable, c'est un voleur. Et il fera tout pour nous faire croire qu'on est spirituel lorsque l'on ne l'est pas. Regardez, Romains chapitre 16, verset 26. Alors, on va lire à partir du verset 25. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Amen. Le but de Dieu pour que nos prières soient exaucées, c'est que nous obéissions. Et je vous pose vraiment cette question, est-ce que nous voulons vraiment que nos prières soient exaucées? C'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Est-ce que Dieu nous parle, comme on vient de le lire, par sa parole? S'il nous dit ces choses, eh bien, c'est qu'il veut que nos prières soient exaucées. Il veut que rien ne vienne faire obstacle à la prière. C'est pour cela que quand on lit quelque chose dans la parole de Dieu, il faut être très sérieux. Il y a un texte qu'on n'a pas lu, je voulais le lire avec vous dans les Actes, où il est dit que celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui craint Dieu et celui qui pratique la justice. Moi, j'aime beaucoup ce verset, c'est dans Actes chapitre 9, si je ne me trompe pas, que en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Et voilà comment une prière peut être exaucée. Et s'il y a de l'amertume dans mon cœur, il faut absolument que je la dépose aux pieds du Seigneur. Ça prend le temps qu'on le demande. Seigneur, je dépose cette amertume à tes pieds. Vous connaissez Asaph ? Asaph, le chantre choisi par David par rapport à ses qualités, même il est devenu prophète, c'était quelqu'un Asaph. Eh bien cet homme, il était tous les jours dans la maison de Dieu, et tous les jours il priait, et tous les jours il louait, et tous les jours il dirigeait la chorale, et tous les jours il en faisait, etc. pour Dieu, et pourtant son cœur s'aigrissait. Vous le lirez dans le psaume 76, « Mon cœur s'aigrissait ». Et il regardait les inconvertis qui prospéraient, et ça le mettait en rogne, parce que lui, il obéissait. Il disait, mais je ne comprends pas, les méchants prospèrent, les méchants s'accroissent, etc. Et moi qui applique mon cœur à obéir, je suis dans le tourment, etc., etc. Il en a été malade. Et tout le psaume parle de cette douleur intense, et il est tous les jours dans la maison de Dieu. Jusqu'au jour où il va pénétrer dans le sanctuaire. Il ne va pas chanter pour chanter, diriger la chorale pour diriger la chorale. Il a besoin d'une parole de Dieu. Il est dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, parce qu'il voulait être, il voulait de l'éclairage, la difficulté fut grande. C'est-à-dire que plus il réfléchissait, vous savez, des fois on réfléchit, ça ne s'arrange pas. Plus il réfléchissait, il se levait moins. Regardez, dans le psaume 76, je ne sais pas si vous avez déjà lu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, ou il y a 2 ans, j'ai invité 2 pasteurs, et c'est sur un mois d'écart, et ces 2 pasteurs ont prêché sur le psaume 76. Peut-être que personne n'y a fait attention, mais c'est ce qui s'est passé. Je crois que Dieu avait voulu nous parler. Je ne sais pas si tout le monde a fait attention, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait esprit, ils ne se sont pas concertés, c'est le psaume 73, pardon. Vous voyez, au verset 16, il n'en peut plus. Ça fait longtemps que ça dure, il en a assez, il n'en peut plus. Alors il réfléchit. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, on pourrait dire, bon, ça va enfin finir. Non, la difficulté fut grande à mes yeux. Au verset 17, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et là, il a ouvert son cœur, il a ouvert ses yeux. On le voit au verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait, voyez son cœur, personne ne le savait ça, personne ne le voyait. Et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Et on voit qu'il vient de faire une expérience avec Dieu. Il a besoin de faire une expérience avec Dieu, mais vous et moi, nous avons besoin, quel que soit notre niveau, quel que soit nos progrès, nous avons besoin de refaire une expérience nouvelle avec le Seigneur, afin que justement quand on prie, eh bien nos prières soient exaucées. Que quand on prie, eh bien on ne soit pas là, est-ce que Dieu m'entend, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui peuvent dire, moi ça fait des mois que je ne sais pas si Dieu m'exauce. Mais peut-être que ça vaut la peine de regarder si votre cœur n'est pas aigri, si votre cœur n'est pas percé, lorsque mon cœur s'aigrissait. Je me sentais percé dans mes entrailles. Vous savez, des fois on souffre, ça vous est arrivé de souffrir intérieurement? Est-ce que ça vous arrive de souffrir intérieurement? Ben oui, à tous, on a des moments de souffrance intérieure, et c'est pour cela que la Bible dit, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos soucis. Qui n'a jamais eu de soucis? Alors, c'est une question, si le gars n'a pas eu de soucis, je peux vous dire, il y a vraiment du souci à se faire pour lui, croyez-moi, parce que ça doit aller vraiment mal. On a tous des soucis, et le Seigneur, il est catégorique, et il nous dit ça, non pas pour raser le problème, mais pour qu'on comprenne bien qu'il faut que l'on se décharge sur lui de tous nos soucis, parce que je crois vraiment que quand on est dans le souci, dans l'anxiété, dans le trouble, je ne sais pas si on peut entendre la voix de Dieu, je ne sais pas. Vous voyez, ce texte dit, mais quand j'étais percé, quand j'étais aigri, tout ça, je n'y comprenais plus rien. Et je crois qu'on a besoin de rester dans la paix. On a besoin de paix.
Croyez-moi, mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose que Dieu veut donner, que Dieu peut donner ce soir, c'est cette paix qui surpasse l'intelligence. Afin que nous retrouvions cette vie, vraiment cette vie de l'esprit. Cette vie qui va faire que, voilà, je veux m'accorder avec mon frère, je vais prier. Eh bien, Dieu va exaucer. Est-ce que Dieu peut nous étonner dans la prière? Moi, je vous assure que oui. Je crois que Dieu peut vraiment nous étonner, mes frères et sœurs. Que nous ne nous habituions pas à ne pas être exaucés, à vivre dans une espèce de routine religieuse. On a vite fait de critiquer telle religion, ils prient, ils récitent des prières, les pauvres, ils récitent toujours la même prière, etc. Mais oui, mais c'est pas bien. Mais que Dieu nous garde de réciter nos prières pentecôtistes, nos prières évangéliques, et que nous en arrivions à dire, mais moi, je veux voir Dieu manifester sa grâce dans ma vie. Et je ne veux pas être comme Asaph, je ne veux pas être là à l'église tous les dimanches et être aigri dans mon cœur. S'il y a de l'amertume, je veux la déposer à tes pieds. C'est pour ça qu'il dira, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Vous vous rappelez le prophète Michée? Michée, c'est un prophète qui avait envie de faire des progrès avec Dieu. On le voit, ils exercent leur ministère, mais en même temps, on voit, à un moment donné, ils se posent la question, mais avec quoi me présenterai-je devant Dieu? Qu'est-ce que je dois offrir à Dieu pour lui être agréable? Est-ce que je dois offrir des milliers de torrents d'huile? Vous savez, il est là, il a le souci. Il veut savoir comment être agréable à Dieu. Est-ce que c'était une bonne chose? Ben oui. Comment être agréable à Dieu? Et il entend la voix de Dieu qui lui dit, mais on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu et que tu pratiques la justice. Voyez, que tu pratiques la justice. Et ça revient très, 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 très souvent dans la parole de Dieu, cette affaire de pratiquer la justice. C'est ça l'obéissance. C'est pour ça que la Bible dit, mais ne t'approche pas comme un insensé pour offrir le sacrifice des insensés. Vous connaissez cette affaire dans l'Ecclésiaste, mais ne t'approche pas dans la maison de Dieu pour offrir le sacrifice des insensés. Ils ne savent pas qu'ils font le mal. L'offrir le sacrifice des insensés, c'est ça. Je fais des choses comme l'homme dans le temple, mais je n'obéis pas à Dieu. David l'a vécu, ça. On est dans les psaumes. Si vous allez dans le psaume 51, David a vécu des choses très belles et il a vécu des choses très, très, très moches, croyez-moi. Et dans le psaume 51, il est confronté à son péché. Ça fait un an que ça dure, là aussi, vous voyez, ça peut traîner longtemps. Est-ce que ça peut durer longtemps, le péché? Ça peut durer combien de temps? Elle t'a dit, moi. Combien de temps ça peut durer? Jusqu'à ce qu'on le règle. Jusqu'à ce qu'on le règle. Ça peut durer 3 secondes, ça peut durer 3 minutes, ça peut durer 3 heures, ça peut durer 3 semaines, ça peut durer 3 ans, ça peut durer toute la vie. Le péché, c'est écrit dans Isaïe, on en souffre longtemps, jusqu'à ce qu'on le règle. Là, David, pourtant c'était David, quand même c'était quelqu'un. Hein. Et bien, pendant un an, il a attendu, jusqu'à ce qu'il soit confronté à son péché. Alors là, ça a été une prière extraordinaire qu'il va faire, mais il offrait des sacrifices, mais ça ne servait à rien, parce qu'il ne s'était pas repenti. Et au verset 20, regardez, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, regardez bien cette expression. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice. Tu vas agréer ces sacrifices d'obéissance. On pourrait dire un sacrifice d'obéissance. Le grand problème des chrétiens, c'est que l'ennemi arrive à les aveugler et à leur faire croire qu'ils ont la foi, alors qu'en vérité, ce n'est que de la croyance. La foi, je le répète, c'est de l'obéissance. La foi, c'est dit, voilà, le Seigneur, il m'a parlé, il m'a montré qu'il y avait cet obstacle dans ma vie. Oui, j'ai de l'amertume. Oui, j'ai de la haine. Oui, je n'ai pas pardonné. Oui, j'ai menti et je dois demander pardon à la personne à qui j'ai menti. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est ça, si mon peuple s'humilie, je m'humilie, oh Seigneur, tu me montres ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur, tu me le montres. Mes frères et sœurs, il faut être sérieux avec Dieu, il faut être sérieux. On ne va pas au temple comme ça, vous voyez, comme ça, il s'imaginait, le gars, que ça allait bien, parce qu'il faisait certaines choses, parce qu'il pratiquait certaines choses. Non, David, vous voyez, vous méditerez le psaume 51, c'est un homme qui vient d'être confronté à son péché, il a besoin de faire le point avec Dieu, il va dire, mais Seigneur, aie pitié, il connaît Dieu. Et c'est pour ça que malgré ce qu'il a fait, parce qu'il a commis l'adultère, il a fait tuer le mari de cette femme, etc., etc., et il dit, mais aie pitié de moi, dans ta grande miséricorde, il connaît Dieu. Il sait que Dieu est miséricordieux. Il se repent, vraiment il se repent. Et puis après, il sait que Dieu lui accordera et bénira ses sacrifices de justice. La véritable justice, c'est j'obéis à Dieu. Mes frères et sœurs, vous savez, ce matin quand je priais, j'avais ce verset s'est imposé à mon cœur, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des gens qui acceptent les dettes. Et parce que justement, c'est un chrétien qui a prêté de l'argent. Alors bon, c'est un chrétien, c'est pas grave, il a du fric. Il n'est pas à 500 euros près. Mais moi, je crois que quand on a une dette, il faut la rembourser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, est-ce que c'est parce qu'un chrétien nous a prêté de l'argent que, bon, c'est pas grave, lui, il a du fric, il comprendra. Écoutez, si on a fait une promesse de rembourser, il faut rembourser. Et il y a des gens comme ça qui se tolèrent, qui s'autorisent. Voilà, je crois, écoutez, la Bible est catégorique. Un homme de Dieu, un chrétien, il pratique la justice. Vous connaissez le dernier avertissement de la Bible ? Moi, ça m'a fait froid dans le dos. Le dernier avertissement de la Bible, c'est que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice continue. Que celui qui se souille encore. Le dernier avertissement, c'est Dieu qui parle. Je veux dire, c'est d'une sévérité totale et c'est d'une clarté total. Cela veut dire qu'en vérité, Dieu nous laisse libre. Je choisis de pratiquer la justice, c'est-à-dire je choisis d'obéir, ou alors je choisis de vivre. Il parle à des chrétiens, il ne parle pas aux inconvertis. Il parle à des chrétiens, tu veux te souiller ? Eh bien, souille-toi. Tu veux regarder tes cochonneries à la télé ? Eh bien, regarde tes cochonneries à la télé. Mais ne pensez pas que ces gens-là seront exaucés et qu'ils seront pris le jour où Dieu reviendra nous chercher. Parce que je crois vraiment que nous avons affaire à un Dieu saint. Un Dieu saint qui veut manifester sa sainteté, manifester sa vie, manifester sa grâce dans l'Église. Et s'il dit que rien ne vienne faire obstacle à nos prières, c'est parce que c'est le premier à vouloir vraiment nous exaucer. Dieu viendra chercher ceux qui lui obéissent. Est-ce que Dieu viendra chercher ceux qui l'attendent ou ceux qui lui obéissent ? Parce que ça, voilà. Si vous connaissez la Bible, vous pouvez me répondre. C'est écrit, hein, ceux qui obéissent. C'est écrit dans les Thessaloniciens, Dieu viendra chercher ceux qui obéissent. Et dans les Hébreux, Dieu ne viendra pas chercher les chrétiens. Les vierges folles, est-ce qu'elles attendaient le maître ? Est-ce que toutes les vierges attendaient le maître ? Ah oui, toutes, mais il y en a cinq qui n'étaient pas prêtes. Parce qu'elles n'avaient pas de communion avec Dieu, elles n'avaient pas d'huile qui représente qu'elles n'avaient pas cette communion avec Dieu. Il y avait ce manque d'humilité qui faisait que leur prière était superficielle. Il doit y avoir une véritable humilité de cœur parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et si ce soir, vous et moi, nous disons au Seigneur, écoute, je te demande vraiment de me parler, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, montre-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, est-ce que Dieu peut vous le montrer ça ? S'il y a de l'orgueil par exemple, est-ce que Dieu peut le montrer ? S'il y a de l'orgueil dans un cœur, est-ce que Dieu peut nous le montrer ? Mais bien sûr, mais ce n'est pas possible que Dieu n'exauce pas cette prière. Il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, fais ceci, fais cela, tu vois Seigneur, si tu me bénis, je me consacrerai à toi. Mais moi, tous les gens que j'ai entendu faire cette prière, je n'ai jamais vu les gens le faire. Si tu me guéris, Seigneur, si tu me guéris, je te donnerai ma vie, je me consacrerai à toi toute la vie. Mais les gens, ils ont été guéris. Mais vous voyez, pour vous dire, c'est comment les gens vivent. Il y avait un monsieur là qui a perdu son papa là, il y a 6 mois de ça, ou un mois, ou oui, un an de ça. Il est venu, un chrétien, il ne vient plus depuis des années. Quand il a perdu son papa, sur le lit de mort, son papa lui a dit, mais tu sais, je voudrais que tu ailles à l'église. Et quelques heures après, il est mort. Il a dit, papa, je te le promets devant Dieu, j'irai toute ma vie à l'église, tous les dimanches à l'église. Et il est venu là, il m'en parle. Et je dis, j'ai fait cette promesse. Je dis, mais il ne faut pas faire une promesse pareille. Mais vous ne l'atteindrez pas. Mais si, je l'atteindrai. Je dis, mais vous ne l'atteindrez pas. Il est venu un dimanche à l'église. Vous voyez, je crois qu'il y a des prières. Il vaudrait mieux se taire des fois que de faire des prières où c'est stupide. Parce que Dieu vous guérisse. Moi, si Dieu me, moi c'est pas parce que si je suis malade, ben, je ne vais pas dire, Seigneur, si tu me guéris, je te servirai. S'il ne me guérit pas, ben, est-ce que vous croyez qu'on peut le servir même s'il ne nous guérit pas, le Seigneur ? Ben, bien sûr. Vous voyez, alors il y a des prières qui ne veulent rien dire. Mais il y a des prières que Dieu exauce. Si je dis au Seigneur, Éclaire-moi, Seigneur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi dans ta parole s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me tiendrai là, devant ta face. Je vais relire ta parole. Montre-moi s'il y a quelque chose. Et je peux vous dire que quand vous allez lire la parole de Dieu, il y a un verset qui va vous arrêter et qui va vous montrer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Oui, c'est, si le Seigneur dit que rien ne vienne faire obstacle à nos prières, c'est important que je puisse dire, tiens, mais c'est vrai, j'ai critiqué, j'ai parlé mal, j'ai médit. Est-ce que Dieu aime la médisance? Non. Eh bien, il faut que tout ça, ça disparaisse. C'est écrit que toute médisance disparaisse. C'est peut-être des choses vraies, mais ça fait rien. Je n'ai pas à les dire. Seigneur, aide-moi à ne pas être quelqu'un de médisant. Et ainsi de suite. Si vous lisez l'épître de Pierre, on parlait de l'épître de Pierre, mais vous verrez facilement ce qui peut faire obstacle à la prière. Car croyez-moi, si Dieu a institué la prière, c'est pour nous exaucer. Si Dieu a institué la prière, c'est pour nous bénir. Si Dieu a institué la prière, c'est pour que quand on s'accorde, eh bien le Seigneur puisse manifester sa grâce, guérir les malades, délivrer les captifs. Dieu a créé la prière. Dieu a voulu la prière, non seulement pour qu'on communique avec lui, mais également pour exaucer chacune de nos prières. Et ce que Dieu nous demande, c'est vraiment d'obéir. Mes frères et sœurs, si Dieu nous dit que rien ne vient de faire obstacle à la prière, c'est que Dieu a l'intention de nous exaucer. Alors, appliquons-nous et disons, mais Seigneur, je veux que tu me montres, oui, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. C'est la première étape. Parce que, voyez cet homme dans le temple, Asaph pendant longtemps, David pendant très longtemps, ça ne servait à rien. Mais à partir du moment où ils sont confrontés à la vérité, où ils sont confrontés à un prophète qui va leur dire « Mais voilà, si vous multipliez les prières, ça ne servira à rien. Si vous ne vous repentez pas, Dieu demande de l'humilité. » Et puis si vous n'en avez pas, est-ce qu'on peut demander à Dieu de l'humilité? Est-ce qu'on peut dire « Seigneur, donne-moi de l'humilité » Est-ce qu'on peut se rendre humble? Est-ce que c'est écrit « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant » Est-ce que c'est écrit? Oui, donc on peut développer une véritable humilité. On peut dire « Mais donne-moi cette humilité, je veux me soumettre à ta parole, c'est pas à moi. » À dire « Oui, ça c'est écrit, mais vous savez, est-ce que c'est pas une légende, l'histoire de Jonas? Mais vous rigolez, vous n'allez pas croire qu'un homme est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, mais vous plaisantez ou quoi ?» Je ne pense pas que c'est à nous de nous moquer de ces choses. Mes frères et sœurs, si la Bible le dit, c'est la vérité. Il est sûr que c'est facile. Et vous croyez l'histoire de Josué qui a arrêté le soleil? Non, mais vous rêvez. Moi, je crois que Dieu a créé les astres, tous les astres, que Dieu a créé l'univers, les galaxies, et que Dieu y fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et que si Dieu a exaucé la prière de Josué, c'est parce que Josué, il était en train d'obéir à Dieu. Est-ce que nous voulons que le Seigneur arrête certaines choses? Il peut le faire. Dieu peut nous étonner. Croyez-moi, mes frères et sœurs, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Alors, demandons à Dieu cette humilité. Mes frères et sœurs, nous avons un grand Dieu, capable de nous étonner, capable de faire des choses merveilleuses. Oui, mais s'il dit « si mon peuple », et il faudrait que le « si » se transforme en « quand mon peuple va s'humilier ». Quand mon peuple va se remettre devant ma face, vraiment à chercher la face, parce que prier c'est une chose. Vous avez vu les 4 conditions? S'humilier, prier, chercher ma face, se détourner de ses mauvaises voies. Parce que les 3 étapes c'est formidable, s'humilier, mon cœur va être travaillé comme un terrain qui est labouré pour recevoir la semence. Si je prie, bon ça prouve que je veux retrouver le contact avec Dieu. Mais chercher la face de Dieu, c'est plus que de lui demander quelque chose. C'est chercher ma face, c'est je veux plus que prier, je veux plus que demander, je veux plus qu'obtenir. Je veux être face à face avec lui. Chercher la face de quelqu'un, quand on cherche la face de quelqu'un, ça vous arrive de vouloir discuter avec quelqu'un, d'être bien face à face? Est-ce que c'est bien d'être face à face avec quelqu'un? On peut l'appeler, voilà, la prière, on pourrait comparer, voilà, si mon peuple prie, c'est peut-être l'image du téléphone, voilà, hop, ou de mail qu'on envoie, et voilà, j'ai fait part de ma requête à Dieu. Mais chercher sa face, c'est beaucoup plus sérieux dans la communion. C'est pas, bon, j'ai dit à Dieu que j'avais besoin de ci, j'avais besoin d'un travail, bon, il a entendu, c'est bien, je sais qu'il m'entend. Non, on va beaucoup plus loin dans la communion. Je m'humilie. Il faut que je sois vrai devant Dieu, il n'y a pas de tortille, il faut que je sois vrai. Il faut que je prie parce que j'ai des choses à lui dire, j'ai besoin de l'exprimer, mais je vais chercher sa face. Il faut que je retrouve cette communion, ou que je la découvre, peut-être que vous ne l'avez jamais découvert, que je découvre cette communion, il est là, Il est là, je veux le voir. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et que je puisse me détourner. Parce qu'à quoi ça sert? Que je dise, Seigneur, il y a ci, il y a ça, et que je recommence à vivre dans le péché. C'est du cinéma et du folklore. Mais Seigneur, je vais me détourner. Là, tu m'as montré ça. Un frère me disait que dernièrement, il avait interpellé par rapport à une prédication où on avait rappelé l'importance de se lever tôt le matin pour chercher la face de Dieu. Eh bien, oui, c'est ça, chercher la face de Dieu. Mais c'est dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis un paresseux, je suis un feignant, j'arrive pas à me lever pour avoir un peu de temps avec toi. C'est un obstacle. La manne, elle séchait quand le soleil se levait, il n'y en avait plus. Et il y a des gens, une fois que le soleil s'est levé, les activités ont pris le dessus, et il n'y a pas de temps pour Dieu, plus de temps pour Dieu, j'ai pas le temps. Et le soir, on est crevé, il n'y a pas le temps. Si le Seigneur te demande de chercher sa face, c'est que tu as besoin de ce temps avec lui. Tu as besoin de ce temps de communion avec lui. Seigneur, j'en ai honte. Je ne vais pas faire que te prier. Je vais chercher ta face. Quand je lirai la parole de Dieu, je vais la lire en réalisant que c'est toi qui peux me parler. Je veux être avec toi. Je veux marcher avec toi. Ça ne va pas. Je vais me détourner. Et la promesse, elle est pour tous les hommes. Si on fait ça, le Seigneur nous guérira. Il guérira physiquement, il guérira psychologiquement, il guérira spirituellement, il manifestera sa puissance. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas les faire, ça ne sert à rien. Mais Dieu, il peut les faire. La seule chose que Dieu ne fera pas pour nous, c'est vouloir à notre place. Dieu ne nous obligera pas, mais à partir du moment où on voudra et qu'on dira, Seigneur, je veux véritablement obéir. Tu me montres ça, il y a des obstacles dans ma vie. Ça fait un an que tu ne m'as pas exaucé, non mais ça ne va pas. Ça fait un an que je me trimballe toutes ces tonnes de cafards, toutes ces tonnes de découragement. Il faut que ça cesse. Je vais le déposer. Tu vas me montrer. C'est peut-être de l'amertume. Je me souviens, moi, de cette sœur qui a été guérie. Je lui avais dit, écoutez, mais si vous avez de l'amertume, mais écrivez à cette personne, écrivez-lui. Elle a fait la lettre. Voilà, je te demande pardon pour tout ce qui passe. Un truc. Elle l'a fait. Quand elle a mis la lettre dans la boîte aux lettres, elle a été guérie. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a demandé pardon, mais un truc tout simple. Elle m'avait même demandé de l'aider. Je lui avais un petit peu aidé à préparer sa lettre pour tout ce qui s'est passé entre nous. Je vous demande pardon, veuillez m'excuser, etc. J'espère que vous êtes en bonne santé. Un truc mais classique. Quand elle a mis la lettre dans la boîte, elle a été guérie. Oui, comment Dieu est capable de nous étonner? Un courrier, et la femme ne l'avait même pas reçu. Elle l'avait envoyé. Et Dieu l'avait guéri. Je crois que Dieu est capable de nous étonner encore. En tous les cas, on va fermer les yeux. Et on va lui dire, Seigneur, moi je veux apprendre à me taire, comme on l'a chanté. Je veux apprendre à retrouver ta face, à retrouver la communion avec toi. Je veux apprendre à m'humilier. Je veux réapprendre à prier. Je veux obtenir cette grâce de savoir que ça, c'est mauvais. Cette chose, c'est mauvais. Ne dites pas, oui, mais il y en a d'autres qui le font. Oui, mais votre modèle, ce n'est pas les autres. Votre modèle, c'est le Seigneur. Votre modèle, c'est la parole de Dieu. Et ça, on l'entend. Ah oui, mais un chrétien, il fume. Ah, mais moi, je peux fumer puisqu'il y a un chrétien qui fume. Votre modèle, ce n'est pas l'autre chrétien. Votre modèle, c'est la Bible. Alors, inclinons nos cœurs quelques instants. Mes frères et sœurs, de la même manière que nous avons fait le choix de venir ce soir dans sa maison, sous son regard, recevoir une parole de Dieu, car croyez-moi, il faut voir les choses d'une manière intelligente. Si Dieu nous parle de prière, c'est parce qu'il veut exaucer nos prières. Et si Dieu nous montre des obstacles, c'est qu'il veut qu'on les enlève pour que nos prières soient exaucées. Et alors que nous sommes sous son regard, tout simplement, là maintenant, nous terminons cette soirée et je suis convaincu que le Saint-Esprit peut me montrer, te montrer, une, deux, trois choses ou plus qui sont là, dans mon cœur, dans nos cœurs, et qui font obstacle. Si je me détourne de ces choses, le Seigneur nous guérira. Alléluia. Notre pays a besoin de guérison. Notre ville a besoin de guérison. Peut-être que nos familles ont besoin de guérison. Nos foyers ont besoin de guérison. Et Dieu est venu en Jésus pour guérir tous les affligés. Tous. Pas les trois meilleurs. La Bible dit qu'il est venu guérir tous les affligés. Alors pendant qu'on va rechanter ce cantique, si je me tais, oui, si je me tais devant Dieu, si je m'humilie, si je prie, si je cherche sa face, si je me détourne, Dieu ne m'aime pas. Si on le fait, Dieu le fera. Dieu guérira.